repérage du bibliothécaire.
Bonjour Benigno.
Bonjour Marc, on est aux portes du mois de mai.
Oui.
Voire plus.
C'est pour ça que le temps est devenu dégueulasse.
Oui, mais ça va se mettre, le printemps va venir, tu vas voir, sous les pavés, il y a le soleil.
D'accord.
Et puis en attendant le soleil, on va parler des livres qu'on a retrouvés, qu'on a trouvés intéressants, de ceux qui sont sous le chantier et de ceux qui se feront et à qui attendent lecteurs et lectrices dévoués.
D'accord. Alors commençons comme d'habitude par qu'est-ce que tu as relevé dans cette liste du mois d'avril.
Alors cette liste du mois d'avril est très riche en découvertes et aussi en auteurs consacrés, notamment en polar. On a une belle brochette des policiers, on a du Connelly, les dernières Connelly, on a les Donato Carisi, qui est un italien extrêmement connu, et on a les Camilla Läckberg, donc les nordiques toujours au taquet, et avec une autre Sarah Löwenstam qui est un peu plus décalée parce qu'elle c'est un immigré sans papier iranien qui est le détective, et donc il y a toute cette folie. Mais dans tous ces policiers, il y en a un qui est un auteur qui n'est pas tout neuf, mais qui est plutôt inconnu en tant qu'auteur de policiers, qui est Ray Bradbury. Ray Bradbury est connu comme un des grands maîtres de la science-fiction américaine. Et en l'occurrence, il s'est penché, il a décidé d'écrire un polar. Il en a écrit un autre d'ailleurs, mais celui-là est particulièrement bien réussi. Il s'appelle « La solitude est un cercueil de verre ». Et c'est un polar qui se déroule, et du coup on peut faire un peu un lien avec certains romans dont on a parlé en parlant de New York, puisqu'il se déroule dans les années 49, donc tout près des années 50, sauf que c'est pas à New York, mais de l'autre côté, en Californie donc, et dans une ville qui s'appelle Venice, donc Venice, et là... Il y a une histoire assez étrange, parce que c'est quand même du Bradbury. Donc, il y a le narrateur, donc c'est raconté à la première personne. Il est seul dans son tramway de l'époque. Il faut imaginer toutes ces ambiances un peu brumeuses, un peu étranges, la nuit. Et puis, il y a un homme ivre. Et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit « La solitude est un cercueil de verre ». Quand il se retourne, l'inconnu disparaît. Ensuite, il descend et il trouve un homme mort dans une cage à lions, dans la mer. C'est bizarre. Il y a un inspecteur qui vient. Lui, il essaye de parce que lui, c'est un jeune romancier. Il essaye de donner des pistes à l'inspecteur qui ne croit pas en lui. Et à partir de ce moment-là, il y a une histoire qui commence avec toute cette ambiance des grands polars, des grands romans noirs des années 50, des grands maîtres du polar, que Bradbury saisit très bien comme style. Et en même temps, il y a toute cette poésie et tous ces côtés légèrement fantastiques, décalés de l'univers de Bradbury. Donc c'est un très bon roman. Donc c'est « La solitude est un cercueil de verre » et les numéros d'une autre collection, et les 36782. Ça, c'est pour Bradbury. Il y a encore un autre, je pourrais parler beaucoup, mais on va faire un mois d'avril concentré comme un espresso. Et il y a un livre qui n'est pas un policier, qui n'est pas un roman, mais qui se lit comme une horrible histoire, presque une histoire d'horreur, mais qui est un documentaire, malheureusement, et qui a été écrit par une jeune fille irakienne, mais qui non seulement est irakienne, mais qui appartient à une minorité, qui s'appelle les Yézidis. Parce que vous connaissez, j'ai entendu parler des Yézidis. Les Yézidis, c'est une minorité qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, et ils ont une religion très particulière, donc leur dieu, ça apparaît sous forme de paon, donc de l'oiseau. Ils ont toute une culture assez spéciale, mais c'est des gens très pacifiques, à la base, et il se trouve que les gens de Daesh, Ils n'aiment personne déjà, mais les Yazidis en particulier. Et donc,
C'est dans ce cadre-là.
Oui, exactement. Et donc, parce que ça se passe maintenant, et ils envahissent évidemment tous ces villages. Ils prennent en otage les femmes, les hommes qui ne veulent pas se convertir à l'islam, ils ne vont pas à long feu, si j'ose dire, ils les subissent plutôt, les femmes âgées non plus, et les jeunes filles, mais évidemment c'est de la chair fraîche qui va être utilisée. Et cette fille a vécu tout ce qu'on peut vivre des pires, elle a réussi quand même à s'échapper, il a réussi à arriver en Europe, et il a écrit ce livre qui est assez effrayant, et assez poignant, qui s'appelle « Pour que je ne sois pas la dernière ». Et elle s'appelle Nadia Murad. Le numéro, c'est les 36781. Et c'est vraiment un témoignage très fort de tout ce qui s'est passé dans toute cette région, et en même temps de la vie de cette communauté, de ce peuple yézidi, qui est peu connu. Voilà, donc ça, c'est les 36781. Et avec ces deux livres, je vais m'arrêter là. Il y a du théâtre, les bons théâtres de polyphonie. Il y a des grands romans en particulier. Il y a des documentaires extraordinaires. Mais voilà, on va donner ces petits échantillons de toute la richesse de la liste.
Ben, si on fait une sélection, ce n'est pas pour redonner toute la liste.
Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est fait.
Alors, ce qui est en cours?
Alors, pour ce qui est en cours, évidemment, il y a plusieurs livres, toujours sous les chantiers, en lecture ou en prod. Parmi ceux-là, il y a un livre assez particulier, qui est aussi un documentaire, qui se lit comme un roman, d'un auteur qui s'appelle Imam Basala. Et c'est un livre, peut-être pas pour les enfants, car il s'appelle « La vie sexuelle des écrivains ». Et puis, donc, on va pénétrer, si j'ose dire, si vous permettez les termes, dans l'intimité des Victor Hugo, de Lafayette, de Georges Sand, de La Fontaine, de Colette, de Simenon, et on va voir des choses de vertes et pas mûres là-dedans, et en particulier avec Victor Hugo, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer maintenant avec tous ces combats, des MeToo, etc. Et c'était un sacré personnage. Heureusement que c'est un grand écrivain.
D'accord, j'ai toujours pensé que c'était... Que c'était notre ami Simenon qui était un grand consommateur.
Ah aussi. Non, mais il y a de tout.
Ah ouais.
Il y a Proust aussi, bien sûr, avec ses particularités. Et aussi La Fontaine aussi, qui ne racontait pas que des fables. Mais voilà, donc c'est un livre qui est intéressant. Et puis, en même temps, ça enrichit un peu ou ça appauvrit, ça dépend. La vision qu'on a des écrivains. Voilà. Imam Basala, un livre qui est en lecture en ce moment. Voilà.
Et pour les choses qui sont sur ton bureau?
Alors, sur les bureaux...
Ce qui attend.
Ah oui, là, il y a vraiment, comme toujours, un joli réservoir des richesses à découvrir. Parmi ceux-là, et je vais parler des deux livres qui pourront tenter certainement nos lecteurs et nos lectrices, et après nos auditeurs et nos auditrices. Parmi eux, il y a un livre d'un Américain qui s'appelle David Grant, qui s'appelle « La note américaine ». Ça a été traduit comme ça. En anglais, c'est plus costaud comme titre, mais La note américaine, c'est un livre. Alors, c'est un documentaire, mais c'est un documentaire aussi. Là aussi, c'est un roman. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, tu sais qu'il y a eu tous les Indiens, les Amérindiens ont été mis dans des réserves. Mais il y a un peuple qui s'appelle les Osages, Osage, qui a résisté, et puis à la fin, on leur a donné une réserve. Eux, ils sont choisis à l'endroit, aride, inhospitalier, et puis les gens disent, bon, les pauvres, etc. Il se trouve que cet endroit où on les a placés, qu'ils ont acheté d'ailleurs, était la plus grande réserve de pétrole des États-Unis.
Mmh.
Et ces Osages, au début du XXe siècle, sont devenus millionnaires. C'était les peuples les plus riches par habitant au monde. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps, mais pendant un certain nombre d'années, c'était les plus riches par habitant au monde, au niveau peuple, au ethnie, ou comme tu veux. Donc, sauf que, évidemment, les Indiens étaient considérés comme des enfants, et ils avaient des tuteurs blancs. Donc même pour acheter un chapeau, même s'ils avaient 50 millions ou 100 millions dans la banque, ils devaient demander l'autorisation. Et ensuite, il y a toute une série de meurtres. Je ne vais pas tout raconter parce que ça, c'est lu presque comme un roman policier, mais c'est vraiment une recherche, une enquête. Et la police locale, évidemment, s'en foutait un peu de ces Indiens, etc. Et c'est pourquoi ils ont commandé à un organe fédéral qui commençait avec un petit jeune homme un petit peu particulier, mais très intelligent, qui a profité de ces cas pour créer ce qui serait appelé les FBI. Et c'est les débuts de Hoover, qui a, c'était le premier cas qui a, mis les, qui a donné du prestige à FBI, parce qu'il a résolu les meurtres des Indiens Osage. Et à partir de là, l'FBI est devenu ce qu'il est devenu. Donc c'est en même temps l'histoire des Osage et l'histoire de l'FBI.
Ouais, d'accord.
Donc c'est un livre très, très bien conçu, qui a été nominé pour le prix Pulitzer aux États-Unis, etc. C'est toute une enquête passionnante. Ça, c'est le. Et puis le deuxième, je ne sais pas si tu as, ouais, tu as voulu dire là quelque chose.
Non.
Et le deuxième, alors c'est un livre qui est d'une Anglaise. Et puis là aussi, c'est un livre très spécial parce que c'est aussi un documentaire, mais qui se lit aussi comme un roman. C'est d'une dame qui est philosophe, écrivaine, qui s'appelle Sarah Bakewell. Et puis le livre s'appelle Les cafés existentialistes. Et cette écrivaine, cette dame, a réussi les paris impossibles de rendre la vie et la philosophie existentialiste aussi passionnante qu'un roman d'intrigue, parce qu'elle raconte tous ces personnages, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir et tous les grands philosophes, d'une manière tellement vivante, tellement passionnante, tellement drôle, parfois, elle trouve les petits coins d'humour, que ça se lit dans une traite comme ça, et en même temps, tu apprends plein de choses sur la philosophie existentialiste, la phénoménologie, l'horreur qu'avait Sartre, des choses gluantes, et puis tout des tas de choses qui se passaient, et donc, c'est une lecture divertissante, enrichissante, et qui nous rend plus intelligents. Voilà. Pour ce qu'il y a sous la table.
Eh bien, on se réjouit de découvrir tout ça. Bien, merci beaucoup, Benigno.
Mais écoute, avec grand plaisir. Et puis, le mois de mai, c'est un mois riche hein, qui s'annonce avec des pavés littéraires et d'autres.
Exactement. Je crois que elle a été au Salon du Livre qui s'est tenu ces jours. Oui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, on fera un petit retour la prochaine fois. Comme ça, la distance nous permettra une plus grande lucidité.
Ça marche. Magnifique sagesse. À bientôt.
À bientôt.